Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission qui va nous permettre de réentendre des extraits d'anciens numéros qui sont en fin de compte des invitations au voyage et qui vont nous offrir un brin d'exotisme. Au programme, un périple en Sibérie, en passant par le lac Baïkal, en réécoutant Robert Vielglotov, voyageur infatigable qui s'est rendu 8 fois sur la terre de ses ancêtres sibériens entre 2010 et 2014. Nous accompagnerons le photographe Laurent Janin en Albanie, pays situé au sud-est de l'Europe sur la péninsule balkanique. Et nous allons tout de suite ouvrir notre émission avec deux jeunes femmes qui, durant 2 mois, ont parcouru en VTT le Grand Nord japonais en plein hiver, donc dans des conditions climatiques extrêmes. Quelques années auparavant, elles avaient effectué un tour du monde à vélo, accomplissant un périple de 67 000 km durant 5 ans. Alors je vous propose de découvrir Sylvie Massard et Florence Archambault, qui ont donc parcouru le Grand Nord japonais par moins 20 degrés, un challenge relevé de janvier à début mars 2015 sur leur VTT à pneus cloutés. Écoutons donc nos deux aventurières enregistrées lors de la 8e édition du Salon du Livre de Saulieu, c'était le 1er novembre 2015. Tout de suite, Sylvie Massard et Florence Archambault.
Et puis on y allait pour une raison bien précise en fait, c'est voir des beaux oiseaux, voir les grues du Japon, les tancho en japonais, parce qu'on dit qu'apercevoir une grue, c'est 1000 ans de bonheur. Donc c'est très simple, on a eu envie d'avoir 1000 ans de bonheur pour nous et pour les partager. Donc voilà, et pourquoi en hiver? Parce que ces oiseaux se regroupent sur Hokkaido, il est plus facile de les voir en fait à cette saison, parce qu'en été elles sont un petit peu plus dispersées, et là elles se regroupent parce qu'elles sont nourries en fait par l'eau. Donc il y a certains points de nourriture et on savait qu'on allait pouvoir les voir et voilà. Donc il y a deux choses, à la fois voir les oiseaux et à la fois ce petit challenge côté vélo, côté sportif.
Alors à quel moment est-ce que vous pouvez nous situer chronologiquement l'arrivée dans ce Grand Nord japonais et combien de temps êtes-vous resté?
Alors on est arrivé mi-janvier 2015 et on partait pour un périple de 7 semaines tout autour de l'île et on avait l'intention de tracer un parcours qui est la forme d'une grue en origami. Tout le monde connaît l'origami, l'art du pliage du papier au Japon, et l'origami en forme de grue est l'une des formes les plus populaires que les Japonais plient pour se porter chance et s'offrir du bonheur. Et donc on voulait tracer avec les vélos une grue qui puisse être symboliquement vue du ciel dans la neige.
Il faut dire et rappeler que vous n'êtes pas des débutantes. Bien sûr, il y a eu ce tour du monde. Quel entraînement a été nécessaire pour affronter quand même des conditions climatiques extrêmes, Florence?
Comme à notre habitude, pas d'entraînement en fait. Mis à part quelques jours pour aller en Suisse voir un ami suisse qu'on avait rencontré lors du tour du monde. Je ne sais plus si on en avait parlé lors de la dernière mission, mais on est resté en contact avec cet ami suisse et on avait décidé d'aller le voir dans quelle période, Sylvie? En une période hivernale ou à
Noël?
Noël, à Noël, voilà, et de tester un petit peu. Alors on espérait qu'il neige, on est parti sans neige de Dijon, mais heureusement la neige est arrivée juste à temps pour nous donner un petit apéritif en fait de ce qu'on allait voir sur Hokkaido. Donc c'est le seul entraînement qu'on a fait, c'est quelques jours pour aller en Suisse.
Alors bien sûr, j'imagine que ce tour du Grand Nord japonais s'est fait par étapes. Comment s'est passée la gestion des hébergements, de la restauration chez l'habitant, dans des chambres d'hôtes, Sylvie?
Alors on a un peu tout connu, des auberges assez classiques, les auberges, l'équivalent des chambres d'hôtes au Japon, ça s'appelle Minchuku, et il y en a un petit peu partout dans les villes assez importantes. Et sinon, on a dormi dehors, sous la tente, par moins 20, moins 25, c'est une expérience. Et puis, on a dormi dans des petites gares, des abribus, et on a été beaucoup, beaucoup invités par les Japonais, qui étaient tellement surpris de nous voir et tellement inquiets de comment on allait pouvoir résister aux températures de la nuit qu'ils nous ont très souvent ouvert leurs portes avec beaucoup, beaucoup de générosité.
Alors les Japonais ont regardé ces deux Françaises avec des vélos aux pneus cloutés comme deux phénomènes, deux grues bien particulières.
Alors en grue, on ne sait pas, c'est assez péjoratif chez nous, mais en tout cas des drôles d'oiseaux, comme disait Sylvie, et effectivement un peu des extraterrestres. Pour eux, c'était inconcevable, et c'est inconcevable de faire du vélo sur Hokkaido l'hiver. Donc ils nous ont vraiment regardé avec des grands yeux, et régulièrement ils allaient voir les pneus, tâter les pneus et regarder les pneus. Ils étaient un peu rassurés en voyant qu'on avait des pneus cloutés, mais il y avait quand même pas mal d'inquiétudes vis-à-vis de nous, de cette entreprise.
Est-ce que les médias japonais se sont intéressés à votre parcours ?
Un petit peu. À la suite d'une tempête de plusieurs jours, on avait été immobilisés dans un village où les gens nous avaient recueillis et s'étaient occupés de nous pendant plusieurs jours. Et ils avaient prévenu le journal local. Donc on a eu la visite d'une journaliste, effectivement. Il y a eu un article, et malheureusement, on ne lit pas, nous, le japonais. On ne parle pas le japonais. Donc on n'a jamais su ce que ça avait donné, plus que ça.
Vous ne parlez pas le japonais, mais vous avez pu un peu échanger en anglais ou avec la population sur place, Florence ?
Oui, en anglais. On parle pas japonais, mais on a quand même un certain nombre de mots en fait et de phrases, donc on peut quand même comprendre et puis s'exprimer un petit peu en japonais, et puis sinon effectivement c'est l'anglais, et quand vraiment il faut, ça va être des dessins aussi qui vont nous aider. D'une manière générale, on communique relativement bien avec les Japonais, parce qu'ils voilà, japonais qui osent aussi parler anglais, quand on a envie de communiquer, ça se passe très très bien.
Alors quel regard avez-vous porté sur le mode de vie des Japonais? Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce pays, effectivement, qui est une île, d'autant plus que vous étiez dans les zones très froides du Japon. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris? Et qu'est-ce qui a pu vous déplaire, Sylvie?
Moi, ce qui m'a surprise et pourquoi je suis assez admirative, c'est la capacité de mobilisation collective que montrent les Japonais pour s'adapter aux conditions hivernales. Tout le monde déneige, qu'on soit un jeune enfant ou qu'on soit une personne âgée, tout le monde a sa pelle à neige, tout le monde a son kit de survie dans la voiture. Ils sont extrêmement attentifs à ce que leur vie individuelle soit pas une perturbation pour la collectivité, et même à se mettre au service de la vie collective. Et ça, c'est quelque chose d'assez admirable, j'ai trouvé.
Alors ça, c'est admirable. Qu'est-ce qui est éventuellement désagréable chez ce peuple? Alors, sens de l'hospitalité très développé, ça, on l'aura bien compris. Est-ce qu'il y a des comportements, des attitudes des Japonais qui vous ont surprise?
Franchement, j'aurais souffert de rien.
Ouais, non, moi non plus. Après, on parle souvent des codes qui sont très stricts. En tant qu'étrangère, on souffre pas vraiment de ça, et on peut commettre des impairs. Voilà, les Japonais sont très tolérants avec nous étrangers qui ne respectons pas forcément les codes. On sait qu'entre eux, c'est effectivement une société assez codifiée. Mais nous, on n'en souffre pas en tant qu'étrangère. Donc voilà, on peut pas. Moi, pareil, je peux pas trouver d'aspect vraiment trop négatif. En tant que voyageuse et simplement passeuse, en fait. Après, peut-être il faudrait s'installer au Japon vraiment pour être vraiment plus au sein de leur société et vraiment se rendre compte de certains défauts, entre guillemets. Mais là, allez, on va pas critiquer.
Cette folle aventure, vous y êtes allé notamment pour voir les grues, mais c'était aussi pour en ramener c'était aussi un projet littéraire et photographique et filmique.
Oui, on avait amené deux caméras, donc c'est quand même dans l'idée de ramener effectivement de la vidéo et de faire un montage. Donc ce qui a été fait, on a un film de HD de 42 minutes, et puis on sait que l'écriture, c'est aussi une belle aventure, enfin, là notamment pour Sylvie qui écrit davantage que moi, et voilà, on prend des notes tous les jours avec... c'est pas une obsession, on se dit pas absolument il va falloir qu'on écrive, mais on sait que ça va être une belle aventure et on se donne les moyens après de le faire.
C'est vrai qu'il y a aussi un très beau cahier central de photographies en noir et blanc et en couleur, hein, des photographies qui racontent justement cet extraordinaire voyage dans ce grand nord japonais. Le pire moment, y en a-t-il eu ?
Ah, le pire moment pour moi, ça a été le début, en fait, où j'imaginais un territoire très sauvage et avoir à me confronter effectivement aux éléments avec beaucoup d'isolement, etc. Et le début, c'était juste une grande ville, des autoroutes et des camions. Et j'ai eu quelques jours difficiles pour m'adapter à la situation. Et puis après, on est sorti de la périphérie de la capitale de Kaido et j'ai rencontré tout cet espace sauvage auquel je m'attendais, mais le démarrage a été assez difficile pour moi.
Florence ?
C'est la même période, mais c'est surtout en voyant la réaction de Sylvie, la tête de Sylvie qui effectivement avait l'air de souffrir beaucoup, je me suis dit ça va pas être facile, est-ce qu'on va pouvoir finir, faire ce projet de dessin de grue avec nos vélos, comment elle va résister, donc j'ai eu un peu peur, donc c'est cette période aussi de début, et puis le reste le reste c'est de la broutille, la tempête, ça, finalement c'est des bons souvenirs, même toutes les petits inconvénients, c'est des bons souvenirs. Mais c'est ce doute, en fait, de départ.
Je peux vous dire que j'ai horreur du froid. C'était pas gagné.
Effectivement, c'était une mauvaise destination quand on a horreur du froid. Qu'est-ce que vous avez oublié de prendre avec vous qui s'est révélé être extrêmement dérangeant au cours de l'aventure ?
Mon duvet, mon sac de couchage. Quand on est arrivé à l'hôtel à Sapporo, en déballant mes affaires pour les ranger méticuleusement dans mes sacoches, je me suis aperçue que j'avais pas de sac de couchage. Il était resté à Dijon.
Florence ?
Oui, une baguette pour frapper Sylvie quand on s'est aperçu de ça.
Sylvie Massard et Florence Archambault, rencontrées et enregistrées lors du Salon du Livre de Saulieu le 1er novembre 2015 pour leur formidable parcours en VTT en hiver dans le Grand Nord japonais durant 7 semaines au début de l'année 2015. Leur ouvrage autour de cette entreprise folle et impossible a pour titre « Hokkaido, défier l'hiver à vélo » et l'ouvrage est disponible sur le site internet des deux jeunes femmes www.piedplume.com. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une première pause musicale et ensuite nous prenons la direction de l'Albanie avec Laurent Jeannin.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never
to keep course. You loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre émission consacrée aujourd'hui à l'aventure et au voyage à travers des extraits d'anciens numéros de Wagon Livre avec la destination de l'Albanie. Laurent Jeannin publie des carnets de voyage rassemblant des photos noir et blanc argentiques traditionnelles auxquelles il ajoute des textes, des notes de voyage et des réflexions. En 2017, à la fête du livre d'Autun, Laurent Jeannin présentait son dernier ouvrage intitulé « Repères » et consacré à un voyage de 3 semaines qu'il avait effectué en Albanie. Je vous propose tout de suite de suivre notre guide, Laurent Jeannin.
Ce qui m'intéresse, c'est d'aller en dehors des sentiers battus et de comprendre finalement quels peuvent être les nouveaux repères d'un pays comme celui-ci dans une économie un peu mondialisée. C'est un pays qui est candidat à l'intégration à l'Union européenne, mais pour l'instant sa candidature est gelée pour des raisons multiples. Mais finalement, je me dis, ça pousse à réfléchir sur ce que l'Europe a apporté à un pays comme ça. Qu'est-ce qu'un pays comme ça peut apporter à l'Europe, enfin à l'Union européenne? Et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Hein, c'est un pays qui est musulman très majoritairement, on va dire plus de 70%. Et malgré tout, j'ai pas vu une seule burqa, un seul voile islamique. Rien. Je veux dire, la religion là-bas est une question, j'allais dire, intime, personnelle. Il n'y a absolument pas d'affichage ou de prosélytisme. Et n'oublions pas aussi que l'albanaise la plus célèbre, c'est Mère Teresa, qui est catholique, chrétienne, enfin qui était, puisqu'elle n'est plus de ce monde maintenant.
Alors, le livre s'intitule « Repères » au pluriel, dans la collection des carnets d'Iaventure. On peut se le procurer en allant sur le site www.diaventure.fr. Alors, que voit-on en Albanie? En tout cas, des traces de l'ancien régime d'inspiration marxiste. Les monuments sont là, ils n'ont pas été détruits, les statues n'ont pas été forcément déboulonnées, comme ça a été le cas dans l'ex-Union soviétique.
Exact. Alors, ce qui m'intéressait, c'était pas de photographier les monuments en tant que tels, mais plutôt d'essayer de capter le rapport des gens avec leur passé, avec ce passé-là, qui est finalement assez récent. Et j'ai constaté une certaine indifférence. La pyramide qui est à Tirana, dite d'Enver Hoxha parce qu'elle a été érigée à sa gloire, maintenant est à l'abandon. C'est terre à l'aventure des jeunes. Ni ces monuments sont recyclés dans un but touristique, dans un but, j'allais dire. voilà, de promotion d'un tourisme comme on peut l'avoir, comme n'importe quel monument finalement. Et ils ne sont pas rasés pour autant.
Il n'y a pas de culte.
Il n'y a pas de culte de la personnalité, enfin plus de culte. Les intellectuels, parce que j'étais en contact avec un ambassadeur qui était ambassadeur à Prague à l'époque, et sa femme était concertiste à l'Orchestre National d'Albanie. Et ces gens-là ont énormément souffert, les intellectuels de cette période-là. Et néanmoins, ils ont veillé, ils ont protesté quand il s'est agi de raser ces monuments. Donc si les monuments sont encore là, c'est grâce à eux, parce que ça fait partie de leur histoire. Il faut qu'on s'en souvienne un peu, j'allais dire, peut-être comme les camps de concentration qui sont des marqueurs terribles d'une certaine histoire, mais dont il faut garder quand même la trace.
Mais est-ce à dire qu'il y aurait peut-être des nostalgiques de l'ancien régime?
Alors effectivement, j'ai aussi discuté avec l'Albanais de la rue. Si on met de côté l'aspect politique, l'aspect répression, il me disait en quelques mots, avant la vie était quand même facile, on faisait semblant de travailler, l'État faisait semblant de nous payer, parce que tout le monde était fonctionnaire quelque part, hein, et on avait au moins toujours on avait un toit et du pain et du fromage. Voilà, pour eux, ce sont les valeurs, les choses importantes. Alors que dès que la dictature est tombée, mais on l'a vu aussi peut-être dans d'autres pays dits de l'Est, quand la dictature tombe, n'émerge pas une classe moyenne. Soit il y a des très riches, enfin une minorité de très riches qui ont le sens des affaires, qui ont des réseaux, peut-être des anciens apparatchiks, et beaucoup de gens qui sont dans une précarité, mais il n'y a pas de classe moyenne qui émerge quand la dictature tombe finalement.
Mais il y a tout de même pas mal de mendiants, est-ce que j'ai pu lire?
Pas tellement de mendiants. Je pense qu'il y a beaucoup de solidarité parmi les gens, et la solidarité n'est pas, j'allais dire, identitaire, c'est-à-dire, peu importe, on peut être ami, on est musulman, on peut être ami avec un chrétien orthodoxe ou un athée. Ça, c'est, les gens ont l'habitude de se serrer les coudes, mais c'était sans doute comme ça à l'époque aussi, quand il fallait assurer le quotidien.
Comment expliquer cette cohabitation pacifique entre ce peuple qui a des religions différentes ? Il n'y a pas un islam triomphant, écrasant?
Alors, si l'Albanie est majoritairement, on ne va pas dire islamique, mais musulmane plutôt, hein, c'est parce qu'il y a eu une occupation de l'Empire ottoman pendant 5 siècles, hein, qui correspond à notre Moyen-Âge. Et s'il y a une cohabitation, s'il n'y a pas de volonté d'identité, on veut dire religieuse, c'est peut-être parce que déjà le régime de la dictature, le régime communiste, la dictature, enfin, la religion n'avait pas le droit de citer, quoi. Il fallait surtout pas. On a vu ça aussi en URSS, Et puis peut-être aussi parce que on est quand même en Europe, et puis il y a la difficulté de vivre au quotidien, d'assurer sa subsistance, fait que ces choses-là passent à l'arrière-plan. Il n'y a pas de politique sociale qui permet, parce que c'est un pays pauvre quand même, qui n'a pas de ressources. Donc les gens ne comptent que sur eux-mêmes. Et finalement, le fait de dire « je suis musulman » ou « je suis chrétien », c'est secondaire, hein, il faut quand même vivre au quotidien.
À l'instant, c'était Laurent Jeannin, enregistré en avril 2017 lors de la fête du livre d'Autun. Laurent Jeannin qui présentait alors un carnet de voyage intitulé « Repères » suite à un périple de 3 semaines en Albanie. On reviendra en Albanie juste après la pause musicale et toujours avec Laurent Jeannin. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
On commence à bien se connaître, tu sais que tu me plais. Tu sais que je suis honnête quand je te dis que j'ai changé. J'ai fini les conneries, les tours de passe-passe. J'en peux plus de cette vie quand je te regarde en face. Mais je voudrais que t'aies confiance, qu'on réduise la distance. J'suis
voudrais que tu penses que nous deux c'est une évidence. Mais je vois bien que je rame, que madame calme tout le ram, dam, 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 que je déballe alors. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? Cela changerait-il quelque chose? On se tourne autour depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. Voulez-vous On commence à bien se connaître, mais les choses n'avancent pas. On s'écrit, on s'appelle, mais dis-moi quand est-ce qu'on se voit. On a fixé les règles, on se laisse de l'espace. On avance simplement et on sait se faire de la place. Mais faudrait pas que le temps passe, que d'autres envies remplacent. Et que tout ce qu'on a pu écrire maintenant s'efface. Je vois bien que je rame, que madame calme tout le ram, dam, 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 que je déballe alors. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? Cela changerait-il quelque chose? On se tourne autour depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? On se tourne autour depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. On se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change. On refait chaque jour le même jour. Et on se tourne autour. On se tourne autour. On se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change. On refait chaque jour le même jour. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? On se tourne autour depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? On se tourne autour depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Juste avant la pause musicale, nous étions en Albanie avec Laurent Janin, qui avait publié en 2017 un carnet de voyage consacré à 3 semaines qu'il avait passées en Albanie. Je vous propose de rester en Albanie, toujours avec Laurent Janin, et de découvrir la deuxième et dernière partie de cet entretien enregistré, je vous le rappelle, en avril 2017, lors de la fête du livre d'Autun. Laurent Janin.
En Albanie, le tourisme n'est pas développé. Le seul tourisme qu'on voit, ce sont les... on va dire ces énormes bateaux style Concordia, voilà, qui font une halte de quelques heures dans un port comme Durrës ou Saranda. Ça ne fait pas tourner l'économie locale. Les gens vivent sur le bateau, les touristes vivent sur le bateau, mangent sur le bateau, ils vont se promener, ils reviennent et le bateau repart ensuite. Il n'y a pas donc d'hôtel de luxe. Il y a des anciens hôtels, on va dire... communiste, alors c'est très marxiste, hein. on sent vraiment à une époque, on sent pas au 21e siècle du tout, on sent plutôt dans les années 70, voilà. Et donc, comment on vit? Alors déjà, il n'y a pas d'euro là-bas, hein, donc il n'y a pas besoin de visa, la carte d'identité suffit, je crois, parce que comme ils aspirent à rentrer dans l'Union européenne, les formalités sont quand même simplifiées. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que les gens là-bas n'ont pas l'état d'esprit de dire, voilà, il faut... Le touriste n'est pas un attrape-nigaud, voyez, enfin, il faut vraiment... Je suis arrivé à l'aéroport, une anecdote toute simple, je voulais changer de l'argent, donc c'est les LEC là-bas, et le guichetier m'a dit, donc il n'y avait qu'un seul guichet, il faut imaginer l'aéroport, c'est plein d'herbes folles, c'est un aérodrome presque, à l'aéroport international, là, normalement. Et il m'a dit, faut pas changer de l'argent ici, le taux est trop mauvais, allez plutôt au centre-ville. Donc ça dénote quand même un état d'esprit qui est aux antipodes de ce qu'on rencontre dans les pays où le tourisme est fort développé.
Alors Laurent, pour échanger avec les Albanaises et les Albanais, vous avez utilisé quelle langue ?
Alors les Albanais, il faut savoir que beaucoup sont partis travailler à l'étranger, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en France aussi. Donc ils sont relativement polyglottes. Il faut savoir que Enver Hoxha a fait toutes ses études à la Sorbonne, donc il était très francophile. Donc on va dire c'est peut-être sa qualité première. Et donc j'ai eu l'occasion de parler français avec d'autres, avec des Albanais, notamment cet ambassadeur qui est réalisateur cinéaste majeur à Piero Milcani, s'appelle. Vous pourrez retrouver ça sur internet, Piero Milcani. Et donc pour eux la France, voilà, c'est quelque chose d'assez fantasmé, on a parlé de Sartre, ils ont un langage très châtié, on parlait à l'imparfait du subjonctif, c'était absolument incroyable.
Mais vous aussi Laurent, vous utilisez les imparfaits du subjonctif, on en trouve dans votre texte. Alors dénonciation aussi, au passage, il y a toujours quelques coups de griffe des réseaux sociaux. Vous n'aimez pas, on vous trouvera ni sur Twitter, ni sur Facebook. Il y a votre site, d'Aventure.
Voilà, le site d'Aventure, c'est une carte de visite. Ça permet de dire qui je suis, ce que je fais. Mais après, effectivement, pour moi, les vrais réseaux sociaux, c'est rencontrer les gens, et notamment comme à Salon du Livre. On va rencontrer son public, on va échanger de façon... Oui, le contact physique est important, finalement, de savoir à qui... Parce que parler à des étrangers qu'on ne connaît pas, étrangers, virtuel, c'était plutôt le sens de ma remarque. Bon, voilà, c'est quand même très limité.
Alors pour conclure, vous écrivez « Le cogito ergo sum a laissé place au Facebooko ou Twitto ergo sum ».
Oui, effectivement, j'ai l'impression que beaucoup de gens de nos jours n'existent que dans la reconnaissance et le regard des autres, fut-il virtuel. Alors ce qui est quand même important, c'est de partager ce qu'on aime faire. Bon, moi c'est la photographie, c'est l'écrit aussi, parce que la photographie est aussi une manière d'écrire, mais donc j'aime bien marier le scripto avec le visuel.
Enregistré en avril 2017 à la fête du livre d'Autun, c'était Laurent Jeannin qui évoquait l'Albanie. Je rappelle le titre du carnet de voyage que Laurent Jeannin a fait paraître après les 3 semaines de séjour dans ce pays du sud-est de l'Europe. Ce carnet de voyage a pour titre « Repères ». Vous pouvez notamment l'acheter sur le site de Laurent Jeannin, site qui s'intitule « Le carnet d'aventure ». Et vous remarquerez que Laurent Jeannin s'est rendu aussi bien à Cuba, en Afrique du Sud, en Iran et tout récemment en République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord, avec donc 45 photographies en noir et blanc, 86 pages d'un ouvrage que Laurent Jeannin a récemment fait paraître et que l'on peut se procurer sur son site, le carnet d'aventure. Alors Laurent Jeannin a effectivement pu photographier certains aspects de la Corée du Nord et cela me semble absolument passionnant. En tout cas, c'est à découvrir sur le site de Laurent Jeannin. Et puis nous allons faire une petite escale musicale et ensuite nous partirons en Norvège, direction le Spitsberg avec Aurore Mamet. Mais c'est à venir juste après la virgule musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Toute la nuit j'entends nuages, m'en veux d'avoir trébuché. La vie n'est-elle un partage, je me sens seul abandonné. Tourner la page, alors si c'est ça que tu voulais. Et comment calmer l'orage, ce sort qui me pèse en secret. Alors passe comme tu sais, mais reviens s'il te plaît. Ni toujours ni jamais, juste une envie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le 1er novembre 2017, j'avais le plaisir de recevoir devant le micro de Wagon Livre Aurore Mamet pour un récit d'aventure intitulé « Le parallèle de l'ours » disponible aux éditions Coxigru. Originaire du Haut-Doubs, résidant à Besançon, Aurore Mamet s'est rendue en 2006 et en 2010 en exploration polaire au Spitzberg, île principale de l'archipel du Svalbard, qui est la dernière terre avant le pôle Nord par 78 degrés de latitude nord. Territoire sous gouvernance de la Norvège, 60% du Spitzberg est recouvert en permanence par les glaces et la toundra. Je vous propose tout de suite de découvrir en extrait une aventure passionnante et dangereuse, notamment en kayak de mer et à pied, au cœur du Spitzberg, dans un décor ciselé par une nature grandiose, sauvage et menacée. Aurore Mamet.
Quand on va au Spitzberg, on espère un petit peu voir l'ours, en même temps on craint un petit peu. Et en fait, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, peu importe, parce que sa présence est là toujours. Et c'est très rigolo, en fait, les gens, ils ont leur sac à main et leur fusil en bandoulière sur l'épaule. Ça leur pose pas de problème, ils discutent. Donc nous, quand on arrive, on se dit « waouh ». Et une petite anecdote vraiment marrante, c'est quand on arrive dans le bâtiment qui abrite la poste et la banque. C'est la même entrée. À droite, il y a la poste. Donc, on va tous acheter des timbres pour nos cartes postales pour envoyer à la famille. Et à gauche, c'est la banque. Et il y a un énorme panneau qui représente un fusil et un pistolet barré. Et il y a un râtelier pour poser son fusil avant d'entrer dans la banque. Et ça fait très Far West, alors qu'on est au pôle Nord. Et c'est voilà, vraiment très, très spécial.
Autre surprise, Aurore Mamet, c'est aussi dans les mœurs scandinaves. On ne rentre pas avec ses bottes pleines de terre, pleines de cailloux sous la semelle. Respect, on ôte ses bottes que l'on met dans des casiers et on emprunte des petits chaussons pour aller faire ses courses et ne pas abîmer le parquet ou le sol de la boutique.
Exactement, on a l'impression que les Français sont très raffinés, très civilisés. Et quand on arrive là-bas, pour reprendre une expression franc-comtoise, on a l'impression d'être des gros beutiaux. Parce qu'effectivement, dans les magasins, même le supermarché, on enlève ses chaussures et on prend. Donc, il y a des chaussons, il y a des crocs, il y a des. Et tout le monde fait ses courses en poussant le caddie en chaussettes ou en crocs. Et finalement, c'est très cosy et c'est très apaisant.
Il y a un épisode tragi-comique, c'est celui où vous allez faire, vous le dites, un petit pipi, donc vous vous éloignez du campement. Et là, il vous arrive une aventure très surprenante qui. Ça dépend de qui on rencontre. Avec qui allez-vous vous trouver nez à nez ?
Haha, mystère. Non, quand on, par exemple, dans les contraintes, effectivement, quand on va faire pipi, il faut le dire aux autres. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un s'éloigne sans surveillance. Il y a toujours cette idée de l'ours qui plane. Et les ours, on se dit, c'est un gros animal, on va forcément le voir arriver. Et en fait, pas du tout. Il y a des reliefs très accidentés. Les ours, ils savent s'aplatir. Et il faut aussi voir, il y a beaucoup de plaques de neige. Donc, entre une plaque de neige un peu irrégulière et puis un ours un petit peu aplati derrière un rocher qui ne bouge pas. Voilà. Donc, en fait, quand on va faire pipi, oui, il faut ameuter tout le monde. On ne peut pas y aller discrètement. Et donc, pour en revenir au passage que vous citez, effectivement, il y avait un gros rocher qui avait l'air parfait pour se planquer un tout petit peu pour aller faire pipi derrière. Et en faisant le tour du rocher, donc moi j'étais perdue dans mes pensées, je suis tombée nez à nez, mais vraiment nez à nez, avec un renne qui était hors de son troupeau, parce que vraiment on n'en a pas vu, qui lui aussi était perdu dans ses pensées et on s'est, pour ainsi dire, rentré dedans. Et c'était très comique et très touchant. Et le guide ne l'a pas du tout vu sous cet œil-là quand je suis rentrée toute contente en disant « Ah, j'ai croisé un renne !» Parce que lui, voilà, si ça avait été un ours, si ça avait été un renne blessé ou quelque chose, ça aurait pu être vraiment dramatique.
Je vais peut-être vous demander de nous lire un extrait de ce parallèle de l'ours, s'il vous plaît.
Et volontiers. Alors, le passage que je vais lire se situe en kayak lorsque nous arrivons devant le front d'un glacier. Devant le front du glacier, nous stoppons le kayak et posons les pagaies en travers. Il règne un paisible silence et l'écho sonne comme dans une cathédrale. Cette falaise de glace est aussi torturée que le glacier de ce matin. Chaque faille raconte une histoire, une avancée, un chamboulement, un heurt. Nos regards s'élèvent vers cette mosaïque de blanc, de bleu, de gris. Des veines sombres strient certaines zones comme dans une tranche de morbier. Le temps couvert donne de beaux reflets bleus profonds à la glace. Je dégaine mon appareil photo, subjugué. Jérémy, mon compagnon de kayak, s'efforce de garder le bateau dans l'axe sans projeter trop d'eau avec sa pagaie. Après de longues minutes, nous inversons les rôles. « Magnifique !» murmure-t-il entre deux clics. Un grondement se fait entendre sur notre gauche. Le glacier crie. À peine le temps de tourner la tête, nous voyons un pan de glace vertical craquer comme un coup de foudre et, presque au ralenti, se détacher pour sombrer dans l'eau, dans une dernière gerbe majestueuse. C'est un beau spectacle, mais c'est le glacier qui meurt. Dans le silence revenu, plus grave qu'avant, nous tanguons vivement sur la vague engendrée par cette formidable chute. Nous comprenions mieux les mises en garde de Marcus sur les risques de chavirement. Cette nature colossale se respecte et demande une certaine politesse. Nous ne nous approcherons pas davantage, pagayant émerveillé parallèlement au glacier. Marcus agite un bras pour attirer notre attention sans faire de bruit. Paul et Loli, plus à droite, ont repéré un phoque allongé sur un iceberg à quelques dizaines de mètres. Il lève un museau curieux vers nous, repose la tête, la relève dans notre direction. Je brûle d'envie de m'approcher comme le font mes deux compères, mais rapidement le phoque se laisse glisser dans l'eau.
Un extrait du parallèle de l'ours lu par son auteur, Aurore Mamet, qui est ce soir devant notre micro. Aurore Mamet, il n'y aura plus de banquise au Spitzberg d'ici 2050 ?
Oui, malheureusement, c'est les projections scientifiques qui sont admises pour l'heure. On espère que ça change. Mais c'est très triste parce que c'est tout un écosystème qui est lié à la présence de la banquise l'hiver, à son retrait progressif au printemps. Et déjà, cette banquise qui recule beaucoup plus précipitamment qu'avant engendre beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis des ours. Les ours mâles sortent de leur hibernation et suivent la banquise, et les ours femelles, qui sont flanquées de un ou deux petits, ne peuvent pas suivre le retrait de cette banquise. Donc la banquise remonte, les phoques remontent, et elles se retrouvent coincées dans ce qui nous semble froid, mais en fait pour elles c'est un climat un peu trop doux et qui compte pas assez de proies. Et c'est pour ça qu'il y a une recrudescence des attaques d'ours, soit vers les gens, soit même autour de Longyearbyen, il y a plus d'ours qui rôdent maintenant qu'il y a 50 ans, par exemple.
C'était Aurore Mamet, lors d'un numéro de Wagon Livre diffusé le 1er novembre 2017 sur Radion. Aurore Mamet, venue nous présenter ce récit d'aventure intitulé « Le parallèle de l'ours », toujours disponible en librairie aux éditions Coxigru. C'est un livre qui parle de courage, d'endurance et de ténacité. Un très bel ouvrage que nous vous recommandons chaleureusement. Je rappelle que le parallèle de l'ours avait obtenu le prix de littérature du Lions Club Centre-Est en 2016. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons pour nous rendre en Sibérie avec Robert Vielglotov.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En cette fin de matinée sur Radion, un Wagon Livre aujourd'hui consacré aux aventures et aux voyages à travers la rediffusion d'extraits d'anciens numéros de Wagon Livre. Avant de nous rendre en Sibérie avec le prochain reportage, je vous rappelle disponible en kiosque quelques publications, notamment le dernier numéro de Pays de Bourgogne qui est consacré à la Lune. Effectivement, il s'agit de recenser les noms des cratères de la Lune sur sa face visible et sur sa face cachée. Des cratères qui ont les noms de scientifiques bourguignons et franc-comtois. C'est au sommaire d'un très beau dossier publié par Pays de Bourgogne, le numéro de mars 2020, le numéro 259, disponible actuellement en librairie, en kiosque et dans les maisons de la presse. Et dans les maisons de la presse également, à ne pas manquer, parce que je pense que à la fois il est intéressant de soutenir la liberté d'informer et la liberté de la presse. C'est le dernier numéro de Reporters sans frontières avec tout un ensemble de photographies en noir et blanc du génial photographe Philippe Halsmann au profit de la liberté de la presse, le dernier album donc de Reporters sans frontières. Nous poursuivons notre émission littéraire cette fois-ci avec un extrait d'une émission diffusée fin septembre 2016 sur votre radio locale avec Robert Vielglotov qui, après 8 voyages en Sibérie entre 2010 et 2014, a choisi d'aller sur la terre de sa famille paternelle perdue depuis 1942 et notamment de Christopher Glotov, son père, d'origine sibérienne. Voyageur infatigable, Robert Vielglotov nous fait découvrir de sublimes paysages. D'abord, Sa Majesté Baïkal, 800 km de long, 70 km de large et 23 millions de kilomètres cubes d'eau. Tout de suite, Robert Vielglotov pour un hommage au lac Baïkal.
Oui, Sa Majesté Baïkal. Mais moi, Baïkal, il m'a fait peur une fois, un hiver, le premier hiver où j'y suis allé. Quand j'ai failli me geler les doigts, mais vraiment, c'était, pour moi, c'était un monstre. Il faisait froid, jamais eu si froid de ma vie, j'avais un manteau, on sentait le vent à travers les coutures du manteau.
Donc moins 50 peut-être.
Avec le vent, je pense qu'il y avait bien moins 50. Et il y avait, donc la banquise commençait à se former, il y avait du vent, je pense qu'il y avait des embruns, il y avait du sable, et enfin, l'air qui était si piquant vif. Mais je crois que Baïkal, comme je dis, a voulu me donner, je pense qu'il a voulu me donner une leçon. Parce qu'au premier voyage, c'est vrai que je suis allé au Baïkal, je n'ai pas fait tellement de cas. C'est vrai que j'allais dans la famille, bon, le Baïkal, c'était une étape, on va dire obligatoire. Mais la première fois que j'ai vu le Baïkal, j'étais heureux, mais j'attendais autre chose. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. J'aime bien aller dans ma famille.
Dans votre livre, Robert Vielglotov, vous écrivez quand même que c'est l'âme du Baïkal qui compte.
Bien sûr, bon, 800 km, 70 km de large. Je ne sais pas si vous savez que sur l'île d'Oleron, il y a un point culminant qui est à 800 quelques mètres. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais si les Sibériens disent que c'est aussi le point le plus haut du monde. Plus haut que l'Everest, 860 mètres, 8000 mètres d'alluvion et 1600 mètres de profondeur.
En fait, total. 1,50 m d'épaisseur de glace en plein
hiver. Quand on marche sur la glace, on a toujours l'appréhension. Même si on sait qu'elle fait 1,50 m, je pense que tout le monde a une certaine appréhension. Mais c'est vrai que l'âme du Baïkal, c'est les gens du Baïkal qui retransmettent, qui ont quelque chose à partager, à transmettre, parce que je crois qu'avec le tourisme qui arrive, je pense que l'âme du Baïkal va se perdre pour beaucoup de gens.
Alors il faut faire des offrandes lorsqu'on est au bord du lac Baïkal.
Bien sûr, les offrandes, un peu de sel, mais maintenant la tradition c'est la vodka. Donc vous ferez, chaque fois qu'on ouvre une bouteille de vodka, il y en a un petit peu pour le Baïkal, donc on en prend un petit peu soit dans le bouchon, soit on trempe ses doigts dedans, dans le bouchon, puis on se tourne vers les quatre points cardinaux et on dit « Va Baïkal, pour la Baïkal ».
Et puis il y a ce dieu emblématique, cet esprit qui règne sur le lac Baïkal, Robert Vielglotov, c'est
Burkhan. Ouais, en fait, tout le Baïkal est entouré de statues en bois qui représentent une grande barbe, assez impressionnant. Et donc voilà, c'est bien pour montrer que Burkhan est là et qu'on fait tout en fonction de Baïkal. On ne domine pas Baïkal, on est très respectueux envers Baïkal.
Vous écrivez aussi, Robert Vielglotov, que la cuisine russe est riche, excellente et variée. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez mangé, dans ce qui était vraiment original dans cette Sibérie.
On trouve en été beaucoup de crudités, on y verra aussi beaucoup d'herbes aromatiques. Ils mettent de l'herbe dans tout, il y a de l'herbe, on devient des vrais lapins, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de viande hachée, beaucoup de viande hachée. Donc c'est marrant la viande hachée, comment on fait la viande hachée. Donc à l'automne, les vieux croyants tuent une vache Il la met dans la cuisine d'été, il fait moins 40, la vache va être congelée. Et quand on a besoin, excusez-moi l'expression, de la boue de vache, on va prendre le chevalet, vous savez, pour couper le bois. On prend la scie qui a servi à couper le bois. On va couper sur le chevalet un morceau de vache qu'on va emmener à la cuisine. On va le mettre dans le moulin à viande, le hachoir à viande, le gros moulin à métal, comme ça. Puis on tourne la manivelle. Des fois, ça dure un moment. Et donc, j'ai un ami de Paris. La première fois, il y allait un peu avant moi. Il a tourné la manivelle tout un hiver. Puis l'hiver d'après, il a dit, je ne vais plus tourner la manivelle. Je vais amener un hachoir électrique. Il a amené un hachoir électrique. Pourtant, la viande était apparemment décongelée. Le moulin électrique a fait un quart de tour, le moulin n'a pas résisté. Hein.
Alors vous avez mangé aussi de la viande d'ours?
Oui, la viande d'ours, oui, chez Sacha. Oui, c'est un ours qui l'avait tué. Non, c'est bon, c'est pas comme le gibier. C'était... Non, c'est très doux, et puis avec la vodka, ça passe très, très bien.
Alors il y a le moule?
Le moule, ouais, le pain du lac, comme disait la tradition. C'est vraiment... Le moule a beaucoup été pêché, surtout pendant la guerre. C'est ça qui a alimenté les soldats sur le front devant Moscou. Mais trop pêché, une petite anecdote, j'étais à Oloron donc en 2014, et il y avait une journaliste suisse qui était là, qui faisait une enquête sur la disparition de nos moules, pas la disparition, mais la diminution. Donc elle avait trouvé que les pêcheurs lui ont dit que c'était les nerpas, les phoques du Baïkal, qui mangeaient nos moules. J'ai dit, vous allez interroger les phoques du Baïkal, ils vont vous dire que c'est les pêcheurs. Non, ils en mangent beaucoup, mais le nombre de phoques ne fait pas... Je pense que depuis la guerre, ça s'est peut-être pas tout à fait régénéré le nombre de poissons, mais la pêche est intensive. Bon, en principe, elle est interdite, mais tout le monde pêche. Ça coûte moins cher d'avoir une amende que d'aller pêcher 100 kilos de moules. Quoi.
Dans le mode de vie sibérien, Robert Vielglotov, il y a la bagna.
Je m'en doutais.
Qu'est-ce donc la bagna?
La bagna, c'est le sauna sibérien, le sauna à la russe, très rustique. Donc vous êtes dans une petite maison en bois, hein, voilà, il y a un feu en briques réfractaires, il y a un compartiment d'eau chaude. L'hiver, vous avez un tonneau de 200 litres qui a servi. Voilà, et dedans, vous avez un glaçon de 50 cm de haut de tout. Donc la bagna, il fait 60-50 degrés facilement l'hiver, hein, ça chauffe ardidement. Donc vous mettez tout nu, c'est comme un sauna, donc vous transpirez, et après vous rincez avec un peu de shampoing, un peu de savon, eau chaude, eau froide, prenez une casserole, une vieille casserole, dans une bassine, et vous aspergez avec l'eau froide. Et ce qu'il y a le rituel de la bagna, c'est surtout au repas. C'est-à-dire que vous êtes invité d'honneur, une quinzaine autour de la table, et à ce coup-là, la maîtresse va dire, Yannick, voulez-vous aller à la bagna? En fait, c'est Yannick, vous allez à la bagna. Donc vous pouvez, mais vous ne partez pas comme ça. On vous souhaite un bon bain. Donc il y a une phrase typique, puis avant de partir, on va quand même boire de vodka des fois. Okay, hein? Donc vous partez à la bagna, vous revenez, on vous dit, Yannick, avez-vous pris un bon bain? Oui, j'ai pris un bon bain. On va porter un toast puisque vous avez pris un bon bain. Vous asseyez, et c'est celui d'à côté qui s'en va à la bagna. On va faire tout le tour. On peut y aller en couple, c'est très bien aussi.
C'était Robert Vielglotov que nous avions reçu devant notre micro dans cette émission diffusée le 28 septembre 2016. Je rappelle le titre de son ouvrage « Visage de Sibérie », toujours disponible aux éditions du Murmure. J'espère que cette émission vous a offert un peu de dépaysement. En tout cas, nous sommes partis du côté du Grand Nord japonais avec Sylvie Massard et Florence Archambault. Nous sommes allés aussi au Spitzberg avec Aurore Mamet, donc du côté de la Norvège. Et puis, nous avons également mis les pieds en Albanie avec le photographe Laurent Janin. Si vous souhaitez retrouver les noms, les références, les titres des ouvrages et des personnes qui se sont exprimées aujourd'hui, très simple, vous vous rendez sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Prochain rendez-vous de Wagon Livre toujours sur Radion, samedi prochain, 30 mai à 11h. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à la semaine prochaine.